Donc, nous sommes toujours dans les derniers jours. En 2 Timothée chapitre 3, donc, nous avons commencé des séries de messages sur les derniers jours. Les derniers jours ont déjà commencé il y a plus de 2000 ans. Et il est en cours. Nous sommes dans le dernier jour. Et inspiré par l'Esprit de Dieu, l'apôtre a écrit ce qui se passera dans les derniers jours. Et nous sommes en train de regarder ces choses. Je vais lire dans 2 Timothée chapitre 3, donc versets 1 à 5. C'est important, c'est un impératif. Sache, on doit savoir quelque chose. Et donc ici, il commence par « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Verset 2, « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. » Verset 4, « Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. » Et verset 5, « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Nous devrions savoir quoi ? Que les derniers jours seront des temps difficiles. Et quand on regarde le grec, comme je vous ai dit, les manuscrits originaux, le mot ici veut dire dangereux, difficile à vivre, difficile à supporter. Regardez pour vous-même la véracité de ces faits dans nos quotidiens. Et pourquoi les derniers jours sont difficiles ? Eh bien, la réponse, c'est au verset 2. Les hommes seront égoïstes. Les derniers jours seront difficiles à cause de ce fait qu'ils seront caractérisés par l'égoïsme, le service de soi-même. Et nous avons déjà étudié qu'en fin de compte, tous les autres traits des derniers jours qui sont énumérés, comme nous venons de voir, 19 traits de caractéristiques de ces derniers jours, ils sont tous les retombées ou les répercussions de l'égoïsme. Et oui, pourquoi ? Parce que quand on lit ces traits qui caractérisent les derniers jours, il va nous dire ce que fait un égoïste. Il va nous dire les pensées qui motivent un égoïste. Il va nous dire comment parle un égoïste. Il va nous dire comment il agit. Voyez. Donc, l'égoïsme, l'amour de soi, c'est le point central et le reste n'est que des ramifications, des répercussions, retombées de cela. Nous avons dit, on aurait pu faire 19 séries de messages, ça nous prendra presque un an à le faire, pour viser un de chaque trait de caractère qui est décrit ici. Nous n'avons pas fait. Parce que nous voulons regarder ce que l'Esprit déjà, comment il a ordonné les choses. C'est magnifique quand on regarde dans les manuscrits originaux que l'Esprit, en inspirant l'auteur, a choisi des mots, des adjectifs, des verbes. C'est magnifique de savoir que Dieu, pour communiquer, se sert des verbes, se sert des adjectifs, se sert des temps des verbes, se sert de la grammaire pour nous communiquer ses pensées. Et donc, d'autant plus, nous aussi, on se dit, mais l'école et moi, ça fait deux, depuis longtemps que j'ai laissé le grammaire. Ah, c'est pas maintenant là que tu vas me pousser à être sérieux et attentif aux grammaires, aux adjectifs. Non. Dieu prend la peine de nous communiquer ses pensées. Comme cela, on doit aussi faire l'effort de nous concentrer à regarder les mots, ce qu'ils voulaient nous dire. C'est pour cela, ce matin, nous sommes arrivés au verset 4 et 5. Je suis en train de m'asseoir là, les pensées tournent ici. Et c'est vrai que dans les derniers jours, les gens, la religiosité n'est pas oubliée. Et Paul en parle. Il termine un peu les traits avec ces choses-là. Et oui, parce que Dieu inscrit dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Pascal disait qu'il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de l'homme qui ne peut être jamais comblé par quoi que ce soit, que sauf par Dieu lui-même. Et donc Paul énumère deux choses liées à la religiosité dans les derniers jours. Au verset 4, la religiosité des derniers jours est caractérisée par deux choses. L'amour du plaisir plus que Dieu. Première chose. Deuxième chose, l'apparence de la piété. Nous allons regarder ces deux choses tout de suite. L'amour du plaisir plus que Dieu. Ah, je vous ai averti. Attention aux adjectifs. Et nous allons regarder le mot que Dieu utilise pour qualifier la religiosité de ces derniers jours en cours, quand nous y sommes maintenant. Il y a ici deux adjectifs quand on dit aimant le plaisir plus que Dieu. Deux adjectifs avec la même racine, phil en grec. Ça nous fait penser à philéo. Peut-être ça ne nous dit rien, mais philéo, c'est l'amour. Et donc ici, aimant le plaisir, c'est phil et donoï. Une partie philos, amour, et une autre partie edonai. Ah oui, mais donoï, l'hédonisme, il vient de ce mot. Le plaisir, fun, cool. Et oui, et donc, ici, aimant les plaisirs, ça veut dire l'amour du plaisir prime par l'amour pour Dieu. Et ici, plus que Dieu, le grec encore, l'adjectif ici, c'est philotheos. Philos, amour. Theos, Dieu. Donc, amour, littéralement, pour Dieu. Intéressant quand on regarde le texte, aimons le plaisir plus que Dieu, plus que. Là aussi, c'est un adverbe comparatif. Il est en train de montrer la préférence des hommes dans les derniers jours. Ici, il ne dit pas que c'est les gens des derniers jours aiment Dieu d'une certaine manière. Non, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire. Il dit plutôt, ayant la liberté de choisir, les hommes volontairement ont choisi d'aimer les plaisirs plutôt que d'aimer Dieu. C'est ça ce qu'il veut dire. Et c'est un fait aujourd'hui, n'est-ce pas? Regardez votre propre cœur. Oui, l'homme a fermé son cœur à Dieu, mais il l'a ouvert au plaisir, par amour du plaisir. Et ça ne me surprend pas quand la parole de Dieu dit « Ah, les gens maintenant aiment entendre des choses qui flattent leurs oreilles. » Ah, et oui, parce que leur attachement à ce qui les flatte l'emporte sur leur attachement à Dieu. L'amour pour Dieu n'est pas le motif dominant de leur vie. Et ça, c'est pour ça que c'est un avertissement pour nous. En tant que croyant. Vous savez, aujourd'hui, un mot qui est galvaudé, le mot engagement. Engagement. Engagement dans la famille, dans le couple, c'est pas surprenant. Il y a beaucoup de divorces. En France, un mariage sur deux finit par le divorce. L'engagement, la fidélité à l'engagement, c'est terminé. Et aussi l'engagement, je parle ici dans une église locale, oh, c'est plus en vogue. Vous savez, ce qui compte maintenant aujourd'hui, c'est le plaisir, la distraction. Et ça n'étonne plus quand Paul écrit à plusieurs siècles à nous dire les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Vous savez, aujourd'hui, comment choisit-on une église? On choisit une église comme on fait ses courses en drive. L'ordinateur, un jambon, une salade. Ah, hop, ça arrive, et chez vous sans vous déplacer. C'est exactement comme j'ai dit, c'est galvauder le mot engagement. On choisit une église comme on choisit faire ses courses en drive. Ah, juste pour illustrer. Ah, je veux dans une église parce que là, ah, il y a des groupes, des louanges, des experts en musique. Ah, wow. Ok. Premier critère. Ah oui, il y a beaucoup de jeunes. Ah, pourquoi pas, c'est des rencontres. Magnifique, je suis jeune. Deuxième critère. Oui, je choisis l'église parce que, ah, là c'est magnifique, c'est spectaculaire, il y a des guérisons. Ouh, wow, Dieu est là. Magnifique. Ah, je me sens bien, je suis porté, waouh! C'est ça ce que je cherche. Attention, même si tout cela est là, ah, il ne faut pas que la prédication dure plus de 5 minutes. Hein. C'est ennuyant, hein. Surtout pas. Alors là, si c'est ça, on ne me verra pas là. Hein. Ok. Ah, peut-être un petit spectacle pour amuser, les pièces théâtrales. Et je cite des choses pour illustrer l'amour du plaisir. Ça se passe aujourd'hui, mes amis. Voilà le danger. Quand on aime le plaisir plus que Dieu. Mais plaisir, mais quand même Dieu, hein, faut pas l'oublier. Hein. Okay. Au cas où le foudre de la colère de Dieu tombe sur moi, il faut quand même un peu dans la poche hein, avec soi, parce que on ne sait jamais. Ça a l'air spirituel, mais ça me convient. M'engager, alors là, non, non, je viens là, et après je m'en vais, voilà. Mes amis, mes frères et sœurs, on ne pense plus, on ne se pose plus la vraie question. Mais est-ce que c'est l'Église comme Dieu le voulait? Est-ce que c'est les traits de caractère comme Dieu a donné comme modèle dans la Bible ce que doit être une église locale? Et on a oublié de se poser la question essentielle. Je viens au culte pour quoi faire? Est-ce que c'est pour adorer Dieu ou c'est pour moi, pour mes plaisirs? Je profite juste parce que c'est important de le rappeler. Ce n'est pas le cas ici, merci Seigneur. On ne choisit pas une église comme ça, comme on fait le drive. Ses courses. Mais méfions-nous. Ces pensées, ces mentalités viennent rapidement. Et nous devrions nous être alertes, veiller sur nos propres vies pour ne pas faire entrer de telles mentalités dans l'église du Seigneur. Juste, comment on choisit une église? Quel est le modèle biblique que Dieu a donné qui doit être dans une église locale? Eh bien, la première église biblique dans Actes des Apôtres, nous lisons Actes chapitre 2, versets 40 et 42. Et par plusieurs autres paroles, c'est Pierre ici hein, qui fait une longue prédication, c'est pas de 5 minutes. Hein. Il les conjurait et les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Quelle génération? Ce sont des Juifs. Oh, sévère, hein, des générations perverses. Il s'adresse à des Juifs. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et qu'est-ce que font ces 3000 âmes? Ils se voient tous les jours. Et nous lisons verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La liste n'est pas exhaustive, parce que nous savons par ailleurs autre chose qui se fait dans une église locale, dans les épîtres. Et en sorte, verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain, c'est pour dire encore la fraction du pain, dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louons Dieu, verset 47, et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà les traits spécifiques de ce que doit être une Église biblique aux yeux de Dieu, le modèle qu'il a donné. Ça, c'est le modèle qu'il a donné. Qu'est-ce qu'on peut souligner là, une vraie église biblique est composée de quoi? De personnes sauvées et baptisées. On n'est pas membre d'une église locale parce que je viens tout le temps les dimanches, je viens tout le temps le mercredi, je viens. Non, il faut être véritablement né de nouveau. Ça veut dire vraiment venir au Seigneur avec une conviction de péché, comme le publicain. Seigneur, aie pitié de moi, pécheur. Il faut une véritable conviction de péché produite par le Saint-Esprit en nous. Parce que c'est l'Esprit qui convainc de justice, de jugement. Et suivre l'obéissance au Seigneur par ses commandements, de passer par les eaux du baptême, par immersion. C'est ça ce que nous voyons, ceux qui acceptèrent ce que nous lisons. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ça, c'est ce qui est membre de l'Église. Ça, c'est la première des choses qu'on tire de cela. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Qu'est-ce qui s'y fait dans une vraie Église? Eh bien, il y a l'enseignement biblique. L'enseignement des apôtres qui sont dedans. Et la communion fraternelle, attention, la communion fraternelle, c'est pas, on est là ensemble à manger bien, papoter, discuter, rigoler. C'est pas le but d'une communion fraternelle. Ce qui nous unit, c'est pas nos affinités, ce n'est pas parce qu'il aime le sport, moi aussi, il aime. C'est pas ça qui nous unit. Ce qui nous unit dans une communion, c'est le Père et le Fils. Et ceux qui sont unis avec le Père et le Fils s'unissent entre eux. D'où la communion fraternelle. Okay. Qu'est-ce qu'on voit dans une église? La fraction du pain. On célèbre la fraction du pain ou la Sainte Cène. Et les réunions de prière. Voilà. Voilà. La question, est-ce que je suis vraiment dans une assemblée biblique? Regardez ce qui doit y passer. Est-ce que j'ai obéi au Seigneur de passer par les eaux du baptême après le salut? C'est ça qui fait de vous un membre d'une église locale, parce que vous êtes déjà membre d'une église, on appelle ça universelle, le jour où vous êtes venu au Seigneur, tourmenté par vos péchés, convaincu que vous êtes pécheur et pécheresse, et vous vous êtes tourné à Dieu, aie pitié de moi, pécheur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus. Et ça passe par la repentance. La foi et la repentance indissociables. La foi, confiance dans le Sauveur. Et la repentance, c'est un demi-tour avant Dieu. Je ne m'intéresse pas à lui. Mais maintenant, je tourne mon dos. Je vais vers Dieu que je détestais. Dans mes pensées, et ça se traduit dans mes actions. C'est pour ça que la Bible parle de fruits dignes de la repentance. C'est ça qui doivent être les membres d'une église. Revenons à notre histoire, je finis la parenthèse parce que c'est important de le signaler. La question, est-ce que vous êtes dans une assemblée biblique? Sinon, priez que le Seigneur vous dirige là où vous devez être pour le servir. Une assemblée, c'est fait pour que vous puissiez servir le Seigneur. Souvent, on pense, je viens à l'église pour recevoir. Oui, mais ce n'est pas une priorité. D'abord, servir le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Et c'est là, à cause de toutes ces choses, l'enseignement, que vous grandissez spirituellement avec la parole de Dieu. Et c'est là que vous pouvez témoigner autour de vous de la grâce de Dieu dans votre vie. C'est ça l'essentiel, l'importance d'une église locale. Revenons concernant les derniers jours. C'est très frappant. Quand j'étudie le texte, quand on regarde, c'est évident. Il y a trois termes qui caractérisent l'affection de l'homme du dernier jour, quand je dis l'homme, grand H. de dernier jour. Au verset 2, il dit quand les hommes, car les hommes seront égoïstes, ils s'aiment lui-même. Regardez toujours l'amour, philéo ici, il aime l'argent, ami de l'argent, verset 2. Et verset 4, aimant le plaisir plus que Dieu, il aime le plaisir. Et vous savez, ça c'est le danger. Pourquoi cette parole est vivante et un avertissement pour nous dans les derniers jours? Oui, le monde offre des plaisirs, mais sachez-le, Dieu seul qui peut offrir la vraie joie. Oui, le psalmiste dit ceci en psaume 16, verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face. » Pas dans les plaisirs. « Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. » Qu'est-ce que nous enseigne ce verset? Je tire deux applications. Si nous vivons pour Dieu, nous jouissons du plus grand des plaisirs qui ne se trouvent qu'en Dieu seul. Deuxième chose, si nous aimons Dieu et faisons de lui nos délices, nous jouirons pleinement de la vie, ici-bas et pour toujours, alors que les plaisirs que le monde offre ne sont que des passe-temps creux, vides et des fuites. Ils n'enrichissent pas, ne donnent pas la vraie joie. Réfléchissez. Cela. Regardez la réalité de cela. La Bible ne vous induit jamais en erreur. Il est infaillible. C'est ce qu'on appelle l'inhérence. Il ne peut pas m'induire en erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et nous le croyons. Et faites confiance que la vraie joie se trouve qu'en Dieu seul. En Dieu seul. Deuxième main. Caractéristique de la religiosité des derniers jours, c'est l'apparence de la piété. Encore un petit exercice de grammaire ici. Qu'est-ce qu'on entend par piété? Dans les manuscrits originaux, c'est le grec eusebia. C'est eusebia vient de eux, bien, et c'est bomaï. Crainte, révérence, respect. Donc, ce n'est pas difficile. Littéralement, piété, c'est une crainte respectueuse à l'égard de Dieu. Étymologiquement. Mais, si nous regardons toute la Bible, on veut une définition plus rigoureuse. Il faut préciser la nature quand il s'agit de la piété. Il faut préciser l'objet de la piété. Il faut préciser le but de la piété. Et il faut préciser le moyen de la piété, si on veut une définition très précise et globale. Et oui, permettez-moi juste de vous dire, d'après une définition d'étymologie, en regardant la Bible, la nature d'une piété, sa nature, c'est une attitude intérieure. Ça commence là, dans le cœur. Son objet, c'est Dieu, une attitude intérieure en relation avec la personne de Dieu. Quel est son but? Son but, c'est ma sainteté, pour me mettre à part, pour que je sois plus consacré à Dieu. Et quel est le moyen? La discipline. Oh, discipline, oh non. 1 Timothée 4, 7. Exerce-toi à la piété. Exercice, c'est comme dans le gymnase, on transpire. La vraie piété, la dévotion du cœur, se traduit par une conduite extérieure, en relation avec Dieu. C'est pour ça que quand on dit exerce-toi à la piété, attention à la paresse, ça ne marchera pas. Il faut une discipline comme un athlète. Exerce-toi, gymnasio, le grec. Ça veut dire, dépense les efforts. Sue-toi. Il faut la sueur, le travail. Ça ne vient pas comme ça. Oui, l'Esprit de Dieu fait une chose, mais notre contribution n'est pas à négliger. Et dans la parole de Dieu, les deux vont ensemble. Toujours, toujours et toujours. Donc voilà. Déjà, ce qu'est la piété. Comme je viens de dire, il ne faut jamais oublier que la piété intérieure, qui est la dévotion venant du cœur, doit se traduire en piété en action, visible dans la conduite et le comportement et la parole. La mentalité du monde nous trompe. On pense que les personnes les pieux, c'est ceux qui s'isolent dans les monastères. Ils ne pensent qu'à Dieu 24 heures sur 24 et tout ça. Ce n'est pas la piété biblique, désolé. La piété biblique, c'est ça. Une dévotion du cœur à Dieu. Non pas en dehors du monde, mais il est là. Et ça se traduit dans ses désirs, dans son amour, dans son aspiration, dans sa vie. De plaire, chercher ce que Dieu aime et faire que ce que Dieu aime. Ça, c'est la vraie piété. Et ça ne vient pas comme ça. Demande du travail. Êtes-vous prêt? Eh oui. Il y a le mot apparence. Apparence de la piété. Ici, c'est intéressant, c'est le mot morphosis. D'où découle le mot morphologie, forme. En français, une apparence externe, une coquille. N'est-ce pas? Selon notre passage, c'est que cette apparence peut être trompeur. On fait passer pour ce que nous ne sommes pas. C'est ce qu'ils disent ici les gens des derniers jours. Et donc l'avertissement, nous allons rencontrer dans les derniers jours des gens qui d'apparence nous paraîtront très spirituels. Très spirituels. Mais des non-croyants et qui ressemblent, qui marchent, qui parlent comme des croyants et qui rentrent dans les églises comme les croyants. Mais ce n'est qu'une façade. Ce n'est qu'une coquille, une apparence, une forme. Mais ce sont des faux croyants. Pourquoi on peut dire ça? Revenons à la question. Ayant l'apparence de la piété, là au verset, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Posons-nous la question. Réunions la force de quoi? En réunissant ce qui fait la force. Mais la force de quoi? La réponse est dans le verset, la force de la vraie piété. Deuxième question, mais c'est quoi la force de la vraie piété? Nous savons par la parole de Dieu que la force de la vraie piété que les hommes ont nié et qui nient dans les derniers jours, c'est l'évangile. Et oui, l'évangile, Romains 1,16, c'est la puissance de Dieu pour ceux qui, pour quiconque croit. C'est la puissance, pouvoir. Et oui, dans les derniers jours, nous y sommes aujourd'hui, beaucoup vont nier que Dieu a par sa parole le pouvoir de leur enseigner ce qu'ils doivent faire. Ah non, c'est pas toi qui vas m'apprendre à ce que je dois faire. Je suis assez grand pour faire ce que j'ai envie et choisir ce que je veux. Ah, je ne veux pas rendre compte à qui que ce soit. Oh Dieu, surtout pas. La mentalité des derniers jours. Cette puissance, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et les gens dans les derniers jours vont refuser l'évangile. N'acceptera pas que l'évangile soit une autorité pour leur vie. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que beaucoup rejettent l'évangile, refusent qu'elle soit l'autorité légitime de leur vie. Et les personnes qui pensent comme cela, ce n'est pas des véritables croyants. Oui, comme je viens de le dire tout à l'heure, ils ne sont pas passés par une véritable nouvelle naissance, avec de véritables convictions de péché, de dire « Je suis pécheur, aie pitié de moi, j'ose même pas lever les yeux vers toi, aie pitié de moi, sauve-moi de mes péchés. » Ils ne sont pas comme ça. Et qu'est-ce que dit la parole face à ces personnes-là? Éloigne-toi de ces hommes-là. Le temps du verbe ici indique tout simplement qu'il faut que je me prenne le col, rapidement s'entraîner, je m'éloigne. C'est comme Joseph hein, qui a fui quand la femme de Potiphar prit ses vêtements, parti. Il s'est éloigné. C'est ça le sens du verbe ici. Je dois me prendre au col et je m'éloigne. La question, mais pourquoi? Pourquoi éloigne-toi de ces hommes-là? Pourquoi, selon vous? Les bonnes compagnies,
voilà.
Hein? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs.
Voilà.
Eh oui. Parce qu'on risque d'être contaminé par cette manière de penser et de faire. Même vous, chrétiens, vous pouvez risquer la contamination de telle mentalité. Ça, l'avertissement pour nous aujourd'hui, dans les derniers jours. Vous savez, ça, c'est ma crainte. Et Seigneur, je veux, Seigneur, travailler ça chaque jour. Préserve-moi de la façade, de montrer à mes frères et sœurs que je suis hyper spirituel. Oh, je suis là, je fais des bonnes prières, des belles prières, je choisis des beaux cantiques, je fais... Seigneur, préserve-moi de cette mentalité. Il y a le péché là qui traîne et je continue à vautrer, me vautrer dedans et faire comme si de rien n'était. Et pour ça, le Seigneur touche là, tu dois régler. Et on continue à venir au culte, comme si de rien n'était. On continue comme ça. Seigneur, préserve-moi de cette mentalité de faire une apparence juste pour impressionner les autres. Mais moi, toi, Seigneur, je ne peux pas t'impressionner. Tu sais ce qu'il y a dedans. Tu vois, je n'ai rien à te cacher. Et ça, c'est ma prière. Préserve, Seigneur, cette église, à commencer par chacun de ses membres, de ne pas glisser dans cette manière de faire et d'infecter l'église. Ça, c'est le danger. Et vous savez, parfois même, on trouve une bonne conscience en faisant ces choses-là, comme si de rien n'était. Ah, ça nous appelle, ça, oui, une toute petite chose pour Dieu, avant que la foudre de sa colère me tombe dessus. Ah, il sera content quand même. Oh, oui. Je vais quand même. Et pourtant, ça ne va plus avec le Seigneur. Et ça rejaillit partout avec mes enfants, ma femme et tout. Ça ne va plus. Eh oui! Que Dieu nous préserve de cela. Il faut, Seigneur, que cette communion vivante et intime, trois jours le feu brûle. Que ça soit toujours une flamme qui brûle avec toi. Et ça va rejaillir. Et c'est ça que Dieu cherche dans les églises. Aujourd'hui, que nous ne soyons pas une apparence juste de piété, mais vraiment la vraie réalité d'une foi et d'une communion avec le Seigneur. Vous savez que Dieu avertit plusieurs reprises dans sa parole vis-à-vis de cette apparence de piété. Je donne juste un avertissement très sévère dans Ésaïe 29, 13, où Dieu reprend son peuple. Et par le prophète, il dit ceci, Ésaïe 29, 13, le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est qu'une forme. Et je vous invite à regarder Matthieu 15, versets 7 à 9, Marc 7 à 5. Jésus va rappeler à ses contemporains, les hyper religieux, le reprocher de l'attitude d'hypocrisie, en citant le prophète Ésaïe. Ça doit nous parler. Les derniers jours se caractérisent non seulement par la recherche du plaisir plus que Dieu, mais aussi par une religiosité superficielle. Ça doit être notre prière à chacun de nous. Préserve, Père, que ma relation avec toi ne sera pas qu'une forme, une apparence pour impressionner les autres. Fais à ce que, aujourd'hui, décider de prendre les choses à cœur et de dire, c'est fini l'hypocrisie. Seigneur, je veux être une vraie, comme à la maison, comme au travail, ici aussi à l'église. Et non pas autre chose à la maison et au travail. Et ici, je me comporte comme une autre personne. Non, fini. Il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition. Vous savez que le Seigneur respecte son église? Je cultive mon cœur à trembler à chaque fois. Le Seigneur respecte son église. Et c'est de ma responsabilité en tant que pasteur d'y veiller. Parce qu'on va me demander de quoi. Regardez ce qui est dit dans les sept églises en Apocalypse. Je sais ce que tu fais. Je connais tes œuvres. Tu te portes comme si, mais tu n'es plus bouillant. Tu fais l'apparence de ceci, cela. Dieu inspecte son Église. Et c'est de notre responsabilité, à commencer par moi et chacun de nous, à examiner notre propre vie. De le régler chaque jour les comptes devant le Seigneur. Et de régler les situations devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que Paul dit dans 2 Corinthiens 13, examinez-vous vous-même. Déjà, si vous êtes au Seigneur, mais examinez nos actes, nos pensées, tout ce que nous faisons, qu'ils soient en conformité avec ce que Dieu demande. Dieu demande du vrai. Dieu demande la réalité, pas une forme. Votre piété est-elle de façade ou la vraie piété? Quelles sont mes motivations pour être dans l'assemblée? Est-ce pour servir Dieu ou pour me servir, pour mes plaisirs? Examinons notre vie chacun devant Dieu. Mettez-la en ordre devant Dieu en confessant nos péchés et en les abandonnant.